Bonjour. Alors, comme on n'a pas de thème imposé en ce moment, je continue à partager avec vous des passages de la Bible qui me parlent particulièrement. Alors, après un extrait de la lettre de Paul à Tite il y a quelques semaines, aujourd'hui, et peut-être pour quelques autres dimanches, je vous propose de m'accompagner dans un parcours de ce qu'on appelle le Sermon sur la montagne. C'est un enseignement de Jésus que nous rapporte l'évangéliste Matthieu, un enseignement de Jésus à ses disciples, comme nous l'indiquent les premiers versets, un enseignement qui nous invite à la réflexion, à l'examen de soi. Souvent, on espère un monde meilleur. On voit où et comment les gens autour de nous pourraient le rendre meilleur. Mais souvent, on oublie facilement de regarder à soi-même. Vendredi, un pilote automobile, un pilote de Formule 1, Lewis Hamilton, expliquait que la meilleure façon de sauver la planète face au dérèglement climatique était d'arrêter de consommer de la viande. Il a probablement pas tort sur ce sujet-là, mais nombreux sont ceux qui lui ont expliqué que pour commencer à changer le monde, il pouvait commencer, lui, par arrêter de prendre l'avion 200 fois par an, arrêter de conduire une voiture qui consomme 45 litres de carburant au 100 km et arrêter d'être sponsorisé par Mercedes dont le business est de vendre des voitures qui émettent des gaz à effet de serre. Bref, tout cela pour dire qu'il est souvent important de regarder à soi avant de critiquer ou de vouloir influencer le comportement des autres. Et c'est précisément ce que nous invite à faire ce texte de l'évangile de Matthieu. Alors je vous invite à lire dans Matthieu au chapitre 5 les versets 1 à 12. Et si Dominique, tu les affiches dans la traduction Summer, c'est exceptionnel. Voilà, à partir du verset 1. Jésus, voyant ses foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui, et il se mit à les enseigner. Il leur dit, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Heureux qui ne rêve pas d'être heureux. Il y a quelques jours, en sortant d'un restaurant avec des collègues, on discutait avec le restaurateur, et celui-ci nous disait « Si vous n'êtes pas heureux dans ce que vous faites, changez de métier, vivez à fond, ne perdez pas de temps si vous n'y trouvez pas le bonheur. » On est tous, à divers degrés, dans cette course perpétuelle. Et ce qui est fou, c'est que ce premier discours que Matthieu nous rapporte, ce premier discours de Jésus, commence par ce mot-là, heureux. Alors avant de rentrer plus en détail dans ces 8 phrases de Jésus qui commencent par ce mot heureux, je voudrais juste aborder 3 points en préambule pour mieux comprendre et saisir ce texte. Tout d'abord, dans le contexte, en fait, on voit dans les 2 premiers versets donc que Jésus voit des foules, monte sur une colline, il s'assit et ce sont ses disciples qui se rassemble autour de lui, et il se met à les enseigner. Alors certes, la foule autour va entendre cet enseignement, mais cet enseignement est à destination de ses disciples avant tout. Ce n'est pas là une règle universelle à appliquer dans une société, mais c'est ce que Jésus souhaite pour ses disciples. C'est l'expression de ce que Dieu veut pour nous. Ce sont à la fois des attentes et des promesses. Alors ensuite, juste pour revenir sur le mot « heureux », c'est un mot qui revient plusieurs fois dans les évangiles, pas que dans ce discours, même si c'est vrai qu'on a souvent en tête ces quelques versets-là quand on pense au mot « heureux ». Il revient par exemple aussi dans des lettres de Paul. C'est par exemple par ce mot-là que Paul désignait notre espérance dans le retour de Christ, j'avais abordé le passage dans la lettre de Tite. Mais c'est aussi un mot qui revient dans l'Ancien Testament. Le premier psaume, le psaume 1, commence par ce mot-là, heureux. Heureux, ça nous renvoie à la notion de bonheur. Mais heureux, c'est aussi dans le sens béni, dans le sens de quelque chose qui est accordé à quelqu'un. Et ce sont par exemple aussi les promesses qui ponctuent ces versets. Heureux, c'est pas juste une fois, mais c'est quelque chose de continu. C'est pas juste un état de béatitude à l'image de, par exemple, ce que moi je pourrais ressentir après avoir mangé un bon carreau de chocolat, mais c'est plus l'image d'un chemin agréable, un chemin où on avance et où chaque nouveau virage dévoile de nouveaux paysages, un chemin où l'on progresse. Et enfin, un dernier point, c'est qu'il existe de ce texte-là des lectures et des compréhensions assez différentes. J'ai un ami pasteur qui a une lecture de ce texte comme nous parlant exclusivement de l'espérance de notre foi. Pour lui, ce dont il est question ici, c'est une description du salut offert aux disciples. Et nous le verrons tout à l'heure, il est en effet question fondamentalement dans ce texte de notre relation à Dieu. Il est question de repentance, de pardon, de foi, de vie éternelle. Et puis, dans un tout autre livre, j'ai un autre pasteur que je connais qui lui a écrit un livre et où pour chaque phrase du Sermon sur la montagne, il y répond par une prière. Une prière qui va lier cet enseignement de Jésus et son propre quotidien. Un livre très axé sur la mise en pratique aujourd'hui de cet enseignement. Alors j'espère qu'au travers de ce parcours, ce matin, on va réussir à en retirer quelque chose, que ce soit pour une meilleure compréhension de notre relation à Dieu, mais aussi peut-être pour une remise en question de notre manière de vivre. Alors je vous propose qu'on s'intéresse à chacune de ces béatitudes, comme on les appelle, une par une. Donc je commence par le verset 3. « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Qu'est-ce que ça veut dire se reconnaître spirituellement pauvre ? Pour le définir, en fait, moi j'aime bien m'intéresser au contraire des choses. Alors quel en serait le contraire ? Le contraire, c'est l'arrogance, la satisfaction de soi, le moi-je en se comparant aux autres. En Luc 18, dans les versets 10 à 13, Jésus nous raconte cette parabole de deux hommes qui vont au temple pour prier. L'un prie en disant « Ô Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Moi, je jeûne 2 jours par semaine, je donne 10% de tous mes revenus. » Et l'autre, de prier, « Ô Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. » Être spirituellement pauvre, c'est avoir cette attitude-là. Une humilité, mais qui n'est pas dans la dévalorisation, mais simplement se reconnaître à sa juste place. Et notre place devant Dieu est celle-là. Nous nous sommes éloignés de lui, nous l'avons rejeté, nous avons vécu notre vie à notre sauce, sans compter sur lui. Nous sommes en fait appelés à travers de ce verset, à vivre cet aspect de la relation à Dieu, une relation d'humble dépendance vis-à-vis de notre Créateur, de notre Sauveur. Nous dépendons de Dieu pour ce que nous sommes. Nous dépendons de Dieu pour notre salut. Nous dépendons de Dieu pour ce que nous avons. Et la promesse qui va en récompense de cette attitude est d'être héritier du royaume des cieux. C'est une promesse au présent qui contraste avec les autres qui sont au futur. Certes, en effet, le meilleur est à venir, mais la récompense commence dès maintenant, aujourd'hui, pour ceux qui vont à la suite de Christ. Le verset suivant, « Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. » Après l'humilité, la dépendance vis-à-vis de notre Sauveur, voilà que Jésus nous parle d'être heureux tout en pleurant. Comment est-ce possible ? La réponse, je pense, se trouve dans la question suivante, c'est « Pourquoi pleurons-nous ?» Dans la continuité du verset précédent, nous pouvons pleurer, être affligés par notre nature pécheresse, par notre éloignement de Dieu, par nos péchés. Bien que disciples de Christ, nous ne sommes pas exempts de nous détourner de ce que Dieu veut pour nous. Sommes-nous prompts à nous affliger lorsque l'on a fait quelque chose de mal? Est-ce que notre regret est superficiel ou profond et sincère? Dieu console, Dieu pardonne et purifie. Dieu nous changera définitivement. Puis nous sommes aussi appelés, invités à pleurer lorsque nos frères et sœurs traversent des difficultés. En Romains 12, verset 15, Paul écrit « Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie et les larmes de ceux qui pleurent. » Parfois, ne sommes-nous pas trop insensibles au malheur des autres? Combien de larmes versées cette semaine avec les familles des 39 personnes retrouvées mortes dans un camion et les milliers de morts de déplacés en Syrie? Sommes-nous devenus insensibles? La mort, la souffrance sont banalisées dans les médias. Peut-être qu'elles glissent sur nous, trop facilement. Nous sommes invités à pleurer, mais également à partager la consolation apportée en Christ, lui qui est venu pour les malades et les malheureux. Verset suivant. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Alors le mot traduit par doux ici, ou peut-être par humble dans le verset 5, en fait, c'est pas la douceur des peluches de ma fille, mais c'est plus une attitude de vie paisible, sereine, confiante. Doux, ici, c'est pas simplement le contraire de violent, mais c'est aussi le contraire de troublé. L'exemple peut être celui de Moïse, qui, après avoir été un révolutionnaire violent, meurtrier, a passé 40 ans dans le désert et a pris la confiance, l'humilité et la douceur. Avons-nous confiance en notre Dieu, en sa volonté? Sommes-nous prêts à renoncer à nous faire justice nous-mêmes, à mettre de côté la violence dans nos réactions? Cependant, douceur ne veut pas non plus dire lâcheté. Jésus était doux, mais il reprend, il corrige, il éduque. Être doux, c'est être indulgent mais sans être passif. C'est se savoir pas meilleur que son voisin. C'est être en colère contre le mal, sans céder à la violence. La promesse associée à cette attitude, c'est hériter la terre. Dieu accordera aux doux la position qu'ils n'ont pas réclamée ou revendiquée. Le verset suivant, « Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. » Alors moi tout de suite avec ce verset, j'ai en tête l'aspect de la justice sociale. Mais avant en fait, il y a un aspect personnel dans cette faim et soif de justice. La question qu'on pourrait se poser, c'est de quoi ai-je faim et soif moi aujourd'hui? Quel est le désir de mon cœur? Mon cœur recherche-t-il en vain des secours illusoires? Un peu plus loin, au verset 20, Matthieu nous rapporte ces paroles de Jésus, qui dit « Donc je vous le dis, si vous ne vivez pas selon la justice mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » La justice dont il est question ici concerne en premier lieu notre relation à Dieu, notre désir d'être reconnu comme juste à ses yeux. Une relation de confiance, une relation d'obéissance à Dieu. Et la douceur dont on a parlé au verset précédent ne peut aller sans la soif de justice autour de nous. Nous vivons dans une société qui ne veut pas de cette douceur. Prime est donnée à ceux qui s'imposent. Et nous sommes appelés à ne pas rester indifférents aux inégalités et aux injustices qui y ressortent. La promesse ici est que cette justice viendra. Dieu fait preuve de patience aujourd'hui. Il souhaite qu'aucun homme ne périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Mais le jugement sera là pour les coupables. Mais Réjouissons-nous également que la justice divine restaure. Elle restaure notre relation au Père. Elle peut restaurer les opprimés, les mal-aimés, les maltraités. Ayons un cœur tourné vers cette justice. Aspirons au règne de Dieu et à la justice divine dans nos vies et autour de nous. Verset suivant, « Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. » La soif de justice pour notre vie, c'est reconnaître que nous sommes pécheurs. Faire preuve de bonté, c'est avoir compassion pour les autres qui sont tout autant pécheurs que nous. La miséricorde, la bonté, fait partie du caractère de notre Dieu. La miséricorde divine dont nous sommes bénéficiaires est éternelle, infinie, inépuisable. Le prophète Michée écrit « Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient ? Toi, tu n'entretiens pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés et au fond de la mer, tu jetteras toutes nos fautes. » C'est cela, la bonté que nous sommes appelés à refléter, à témoigner. Est-ce que nous pardonnons à ceux qui nous font ou nous ont fait du tort? Est-ce que nous persistons à entretenir notre rancune? Nous sommes appelés à la bonté. Et cette miséricorde, cette bonté, c'est pas simplement un état d'esprit, c'est passer à l'action, c'est faire preuve de générosité envers ceux qui sont dans le besoin, c'est porter secours à celui qui est en danger. Et c'est aussi savoir faire preuve de retenue lorsqu'on est indigné. Et c'est savoir pardonner comme Dieu nous a pardonné. Verset 8. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Alors c'est un secret pour personne, je suis gourmand. Mais un de mes pires moments gustatifs pour moi, s'il vous plaît ne me faites jamais ce coup-là, c'est lorsque je croque un bonbon au chocolat, beau, brillant à l'extérieur. Quand on le croque, on découvre à l'intérieur cette hideuse ganache à la liqueur de cerise que rien ne laissait présager. Un extérieur qui cachait bien l'intérieur. Avoir le cœur pur, c'est cela. C'est être la même personne à l'intérieur et à l'extérieur. Suis-je sincère dans ma vie? Quelles sont mes motivations profondes à ce que j'entreprends? Et cela concerne à la fois notre relation à Dieu. Notre cœur est-il pur dans notre relation avec notre Sauveur? Mais ça concerne également nos relations de manière générale. Suis-je calculateur? Est-ce que je porte un masque? Quelles sont les idoles que j'érige à la place de Dieu à l'intérieur? La récompense à cette attitude, voir Dieu, comprendre vraiment qui il est. Verset 9, on approche de la fin. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Tous les mois d'octobre, il y a donc la remise des prix Nobel. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont retenu qui était le prix Nobel de la paix cette année. Il s'appelle Abiy Ahmed. Il est premier ministre de l'Éthiopie et il a œuvré aux accords de paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Tout comme son prédécesseur en 2018, Denis Mukwege, Abiy Ahmed œuvre pour la paix et la réconciliation au nom de sa foi en Christ. Alors il y a peu de chances que l'un d'entre nous obtienne un tel prix un jour. Nos conflits à notre échelle, nos conflits étant à une toute autre échelle, bon, même si on ne sait jamais ce que l'avenir réserve à nos jeunes, mais à notre niveau, nous sommes appelés à être des artisans de paix, des acteurs de réconciliation. À quelle échelle? Dans nos couples déjà, dans nos familles, dans notre église, dans les églises du coin, au travail, au club de pétanque, au cours de fitness? Est-ce que je contribue à la paix, à la réconciliation? Les relations humaines autour de moi sont-elles meilleures par ma présence? ou suis-je source de disputes futiles ? Nous sommes appelés non seulement à sauvegarder la paix, mais également à la faire germer là où elle a disparu. Et la paix que nous sommes appelés à répandre, c'est également la paix et la réconciliation avec Dieu. Il a lui-même payé le prix pour que ceux qui s'approchent de lui soient justifiés et réconciliés avec lui. On continue au verset 10. « Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. » Aujourd'hui, notre société est obsédée par la sécurité. On m'a fait remarquer, et vous pourrez le vérifier tout à l'heure, les portières des voitures récentes sont de plus en plus hautes. Même en voiture, on se replie sur soi, on cherche à être en sécurité. Mais là, Jésus rappelle à ses disciples que peu importe ce qu'ils veulent se mettre autour, ils seront opprimés. C'est la conséquence inévitable de la vie que nous sommes appelés à vivre à la suite de Christ. À cause de ce que nous croyons, à cause de notre façon de vivre, il y aura une tension inévitable. Une tension, un affrontement dû à deux systèmes de valeurs que tout oppose. L'un avec Dieu et l'autre sans Dieu. Sommes-nous prêts à défendre la justice même quand cela nous coûte personnellement? Comment est-ce que je réagis face aux épreuves qui surviennent en conséquence à ma loyauté à Christ? Et Jésus insiste au verset suivant. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux. Car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois, eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Ces versets résonnent encore plus ces derniers jours avec les églises qui ont été fermées par le gouvernement algérien en Kabylie. Ici, la persécution dont Jésus nous parle prend trois formes. Elle prend la forme des insultes, de la souffrance, du mensonge. Pour moi, l'appel de Christ à être heureux, à se réjouir dans ces temps-là est de prime abord encore plus étrange que l'appel à être heureux lorsque l'on pleure. Mais en fait, la joie ici est celle d'être reconnu autour de soi comme disciple de Christ. C'est une joie paradoxale, certes, mais c'est la preuve que notre vie est à l'image de celle de notre Sauveur. Je prie que notre attachement à Dieu soit plus grand que nos peurs dans de telles circonstances. Alors nous voilà arrivés au bout de ce passage. C'était peut-être dense, je condense souvent ce que je vous ai apporté. Peut-être que quelques points vous ont personnellement interpellé, comme moi, certains m'ont interpellé pendant que je préparais. Ce texte nous pousse à nous remettre en question et également à passer à l'action. Alors je vous propose de prendre juste quelques instants en silence pour réfléchir, pour essayer peut-être de repenser à un ou deux aspects de ces béatitudes pour lesquels vous pensez être concernés plus particulièrement. Et je clôturerai dans quelques instants en priant. Seigneur Jésus, Messie persécuté, tu es le roi des pauvres en esprit, tu es la consolation de ceux qui pleurent, tu es la terre promise aux doux, tu es la justice de ceux qui ont faim, tu es la compassion des compatissants, tu es le visage de Dieu pour les cœurs purs, tu es le frère aîné des artisans de paix, tu es le roi des persécutés pour la justice. Tu es la joie des ridiculisés à cause de toi. Que cela nous mette en marche et en joie. Amen.